Bienvenue sur Radio France Internationale. Il est 22h à Paris, 20h en temps universel. Et c'est l'heure de votre journal en français facile.
Jérôme Bastion.
À la une de l'actualité de ce samedi 30 mai, tout d'abord de nouveaux rassemblements violents à Minneapolis, au nord des États-Unis, où la population dénonce toujours les violences policières qui ont coûté la vie lundi à un citoyen afro-américain. Le policier suspecté a été arrêté et inculpé, mais la colère ne retombe pas dans le pays. Le sommet du G7 qui doit se tenir aux États-Unis en juin, qui y participera dans un contexte de pandémie particulièrement virulente encore en Amérique du Nord? Le président français s'était dit disponible, mais la chancelière allemande Angela Merkel se fait excuser. Et puis le sauvetage à 9 milliards d'euros de Lufthansa a passé ce vendredi une nouvelle étape cruciale avec un accord entre le gouvernement allemand et la Commission européenne sur les principales conditions de cette opération qui doit éviter la faillite du groupe.
Le journal en français facile.
Mais avant de revenir sur ces titres, cette information qui date d'il y a à peine quelques minutes en provenance de Californie, où sur le pas de tir de Cap Canaveral, on a pu assister au lancement réussi de la fusée SpaceX, dont le premier étage s'est séparé. Le second étage continue son voyage avec la capsule Dragon et à son bord, les deux astronautes de la NASA qui sont en route vers la Station Spatiale Internationale. Nous reviendrons bien sûr sur cette information plus en détail dans nos prochaines éditions.
Le journal en français facile.
Aux États-Unis, donc, je vous le disais, le Minnesota reste marqué par de vives tensions. 5 jours après la mort d'un Afro-Américain, lors de son interpellation par la police, des renforts ont été envoyés dans la ville de Minneapolis où des manifestations et des saccages ont encore eu lieu la nuit dernière, malgré l'imposition d'un couvre-feu et l'envoi d'un détachement de la garde nationale. Je vous propose d'écouter tout de suite la conférence de presse du gouverneur de l'État, Tim Walz, au sujet de cette situation particulièrement volatile.
La situation à Minneapolis ne concerne plus en aucune façon le meurtre de George Floyd. Il s'agit pour les émeutiers d'attaquer la société civile, d'instiller la peur et de semer le désordre dans nos belles villes. J'autorise et discute avec le général Jensen afin de mobiliser l'intégralité de la garde nationale du Minnesota, une décision jamais prise au cours de ces 164 années d'histoire.
Tim Walz, le gouverneur de l'État du Minnesota. La colère de la communauté afro-américaine qui va largement au-delà des frontières de cet État. Des manifestations ont en effet eu lieu à New York, à Dallas, Atlanta ou encore Houston et également devant la Maison-Blanche à Washington, toujours pour dénoncer le racisme et les bavures policières. Angela Merkel, la chancelière allemande, a choisi de ne pas se rendre à Washington pour le prochain sommet du G7. La situation sanitaire ne le permet pas, estime la chancelière, qui n'a jamais dissimulé ses différends avec Trump, notamment face à la pandémie de coronavirus. Explication Nathalie Versieux.
En l'état actuel, la chancelière ne peut participer en personne au G7 et se rendre à Washington, a expliqué ce matin le porte-parole d'Angela Merkel, confirmant des informations du magazine Politico. La chancelière remercie le président Trump pour son invitation au sommet du G7, a-t-il ajouté. L'annulation intervient dans un contexte de tension entre Washington et Berlin. À plusieurs reprises, Angela Merkel a déploré la difficulté pour l'Europe d'entretenir des liens de travail constructifs avec l'Amérique de Donald Trump, listant les différends commerciaux et climatiques, mais aussi la gestion de la pandémie du coronavirus. Ce matin, le ministre de la Santé, Jens Spahn, a estimé dans un tweet en allemand, en français et en anglais que la rupture de Washington avec l'Organisation mondiale de la santé constitue un revers sérieux pour la santé mondiale. Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
Et puis nous restons en Allemagne avec la situation de la compagnie aérienne Lufthansa. Afin d'éviter la faillite causée par cette pandémie de coronavirus, le géant allemand du transport aérien s'est tourné vers l'État. Le gouvernement allemand et l'Union européenne se sont entendus hier soir sur un montant de 9 milliards d'euros pour sauver Lufthansa. Un accord obtenu à certaines conditions, notamment l'ouverture à la concurrence et le retour de l'État allemand dans le capital de la compagnie aérienne. Stanislas Neichimier.
Les négociations ont été très serrées entre le transporteur Lufthansa, le gouvernement allemand et la Commission de l'Union européenne. Alors que Bruxelles lui demandait une large ouverture à la concurrence, la principale compagnie aérienne allemande a réussi à obtenir un compromis à minima. Lufthansa a donc accepté de céder à des concurrents jusqu'à 24 créneaux horaires de décollage et d'atterrissage sur les aéroports de Francfort et Munich. Très convoité et précieux pour les compagnies, ces 24 créneaux représentent le stationnement de 8 avions. La demande initiale de Bruxelles était de 20 appareils. Le sauvetage de Lufthansa inclut aussi le retour de l'État allemand au capital du groupe pour la première fois depuis plus de 20 ans. La survie de la compagnie passe aussi par une augmentation du capital. Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires doit donc se tenir rapidement pour approuver le sauvetage, qui prévoit qu'en plus d'injecter plus de 6 milliards d'euros, l'État allemand prenne 20% du groupe. Le gouvernement annonce qu'il va surveiller de près l'exécution du sauvetage de Lufthansa et se réserve le droit d'augmenter sa participation à 25% et une action dans le capital, soit la minorité de blocage.
Explication signée Stanislas Ndaichimier.
Le journal en français facile.
En Iran, l'affaire Romina Ashrafi continue de faire la une. Le 21 mai dernier, cette jeune fille de 14 ans était décapitée par son père après s'être enfuie avec son petit ami. Un crime présenté comme un crime d'honneur, mais qui a choqué dans le pays, au point que le Conseil des gardiens de la Constitution a dû se justifier ce samedi. Un fait rare. Anissa El-Jabri.
Il n'y a pas eu de négligence, c'est signé du Conseil des gardiens de la Constitution lors d'une conférence de presse télévisée. Son porte-parole a même ajouté, je cite, « ne pas voir de rapport entre un projet de loi et le fait que ce crime abominable ait été commis ». La réponse a une opinion très émue, la presse a largement couvert le meurtre de la très jeune fille. La réponse aussi au président iranien, mercredi dernier, Hassan Rouhani, dénonçait le meurtre de l'adolescente parlant de violence conjugale. Le président iranien avait aussi demandé que les décrets de son gouvernement contre les violences faites aux femmes soient votés le plus vite possible par le nouveau Parlement. Ces textes sont en attente depuis 7 ans, retoqués 3 fois déjà par les gardiens. Des mesures qui pourraient bien ne jamais voir le jour, car cette fois, le nouveau Parlement qui vient d'entrer en fonction est dominé par les conservateurs et ultra-conservateurs.
Anissa El-Jabri. Retour en France maintenant et les Parisiens n'ont pas tardé à reprendre possession des parcs et jardins de la capitale ce samedi après le feu vert donné à leur réouverture par le Premier ministre Édouard Philippe. En ce week-end de la Pentecôte, Sylvie Coffi est allée au jardin du Luxembourg. Elle a rencontré devant le bassin principal une habituée de ce jardin qu'elle appelle affectueusement Louco, diminutif de Luxembourg. Elle est tout émerveillée. Merveillé, écoutez-la.
Le premier que je vois depuis 3 mois presque, ouais. Premier instant fantastique, formidable, ça c'est Paris. En fait, je viens depuis que je suis toute petite, les bateaux je les connais, il y a les poneys qui sont ressortis. Et c'est vrai que les poneys du Luco, c'est un truc de dingue, on en parlait encore avec mes enfants tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est un truc impressionnant. C'est une bouffée de bonheur, d'air pur, d'oxygène, incroyable, incroyable. Je suis émue parce que... Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, vraiment. Ça fait plaisir de voir des gens, ça fait plaisir de voir la vie. Je le revois, hein, ce jardin-là, depuis 3 mois, je ne l'avais pas vu. Donc oui, les fleurs sont toujours là, il est toujours aussi bien entretenu, magnifique. Ici, non, il y a toujours ces perruches. Les carpes sont un peu plus grosses, je pense. Elles sont énormes. On voit qu'il a été entretenu malgré tout, il est magnifique ce Luco. Je remercie les jardiniers, merci.
C'est Sylvie Coffi qui a recueilli cette émotion et ces commentaires d'une Parisienne toute contente de retrouver le jardin du Luxembourg après sa réouverture. En un mot, des milliers de personnes ont manifesté ce samedi matin devant l'usine Renault de Maubeuge dans le nord de la France. Rassemblement contre la décision du constructeur de supprimer 15 000 emplois dans le monde, dont 4 600 en France. Le site de Maubeuge, qui emploie plus de 2 000 salariés, est actuellement à l'arrêt. Et puis Pierre Moscovici vient d'être nommé à la Cour des comptes. L'ancien ministre socialiste et ex-commissaire européen sera nommé ce mercredi premier président de la Cour des comptes. Il succède ainsi à Didier Migaud. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info revient dans 50 minutes sur RFI.
En sol majeur.